Il est 8h.
Le sujet reste toujours les soins de réanimation parce que là, on ne perçoit pas du tout de diminution. C'est la raison pour laquelle on continue toujours de faire des évacuations.
Hôpital toujours engorgé à Dunkerque, mais il y a du positif. Les contaminations chutent après 3 week-ends de confinement. De quoi réfléchir et comparer pour la situation de l'Île-de-France qui préoccupe en particulier. Au niveau national, 1 an après la guerre déclarée au virus, ennemi invisible, Emmanuel Macron continue de gouverner avec la souplesse et la discrétion que lui offre le Conseil de défense, un organe contesté par l'opposition. Et puis, 19 des 20 albums de musique les plus vendus en France l'année passée sont en français. Forte progression, notamment grâce aux rappeurs. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Principe de précaution ou bien précautionnisme à l'excès? Qu'est-ce qui a vraiment dicté la suspension du vaccin AstraZeneca? Notre invité, le professeur Éric Combe, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Contrairement à beaucoup de spécialistes, sa part est rare et nous la réserve.
On vous retrouve juste après ce journal, Sonia, à 8h15. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et le journal de 8h, c'est avec vous, François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Ça n'est qu'un indicateur, une situation locale, mais elle peut nous éclairer sur ce qui attend le reste du pays dans les semaines qui viennent. Dunkerque, où les contaminations battaient des records, est confiné chaque week-end depuis fin février. Et on retient ce matin 2 points clés.
Bonjour Lionel Gougelot.
Bonjour.
Les hôpitaux restent sous pression maximale, mais les contaminations chutent.
Oui, c'est effectivement un très net recul de l'épidémie sur cette agglomération de Dunkerque. 515 cas pour 100 000 habitants, alors que l'on dépassait les 1000 cas il y a 2 semaines. Pour autant, cela ne soulage pas Yves Marlier, le directeur de l'hôpital.
Le fait est qu'on a divisé le taux d'incidence par 2. En revanche, cette baisse du taux d'incidence a peu d'impact sur le fonctionnement de l'hôpital, qui reste très très actif.
Avec 100 de patients Covid toujours hospitalisés, dont 14 en réanimation, les services sont au bord de la saturation, constate le docteur Popard, le président de la commission médicale d'établissement.
Le sujet reste toujours les soins critiques, les soins de réanimation, parce que là, on ne perçoit pas du tout de diminution. C'est la raison pour laquelle on continue toujours de faire des évacuations.
Évacuation notamment vers la Belgique. Un patient a notamment été transféré hier vers un hôpital de Liège pour libérer un lit en réanimation. Mais l'inquiétude maintenant, c'est le risque de ne plus pouvoir organiser de transfert ailleurs dans la région où l'épidémie reprend.
On risque d'être confronté à des difficultés de transfert dans les autres réanimations de la région ou au niveau national, puisque comme vous le savez, ils commencent, les collègues, à connaître ce qu'on a rencontré il y a 2-3 semaines ici.
Alors ici aussi, de nombreuses opérations non urgentes ont été déprogrammées, à l'exception de celles qui concernent les cas de cancer.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Décidément, cette épidémie nous apprend ou réapprend du vocabulaire médical. Ainsi, des thromboses, ces caillots sanguins risquant de bloquer une veine. Quelques caillots vont-ils bloquer toute la campagne de vaccination en Europe? Question qu'on se pose ce matin en voyant qu'une trentaine d'effets secondaires possibles sur 5 millions d'Européens vaccinés avec AstraZeneca amènent l'Allemagne, la France à suivre le Danemark ou l'Islande et à suspendre les injections de ce produit. On note que la Belgique et la Suède, par exemple, maintiennent ce vaccin.
Emmanuel Macron attend l'avis de l'Agence européenne du médicament jeudi. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
Avec nous depuis Bruxelles ce matin, cette agence qui avait validé ce vaccin va se pencher sur les cas suspects qui lui sont remontés.
Oui, les experts de son comité de sécurité vont examiner en détail toutes les nouvelles données, toutes les thromboses signalées. Ce que cherchent ces scientifiques spécialisés, c'est un éventuel point commun entre ces cas recensés dans des pays différents. En clair, une maladie ou un antécédent médical qui établirait un lien entre eux. Si tel est le cas, l'agence a la possibilité d'affiner sa recommandation pour le vaccin en le déconseillant dans une ou des situations particulières. Ça arrive pour les médicaments. Sur les notices, vous pouvez lire, c'est un exemple, déconseillé si vous avez du diabète ou des problèmes circulatoires, ce genre de choses. Mais on n'en est pas là, vraiment pas. Hier soir encore, l'Agence du médicament a réaffirmé que les bénéfices du vaccin face à la maladie restaient supérieurs au risque d'effets secondaires. Elle rappelle que des milliers d'Européens souffrent de thrombose chaque année et qu'il n'y en a statistiquement pas plus chez les vaccinés. Des spécialistes des problèmes sanguins vont participer aux travaux, tout comme l'Agence britannique de santé. Elle a à sa disposition les données des 11 millions de Britanniques vaccinés sans alerte particulière.
Merci Isabelle Horry, en direct avec nous à Bruxelles pour Europe 1. Voilà donc où nous en sommes ce matin au 16 mars 2021, 1 an après l'annonce du premier confinement, même si le mot confinement n'avait pas été prononcé ce soir-là par Emmanuel Macron, le président décrétait une mobilisation générale en 4 mots.
Nous sommes en guerre.
Et qui dit guerre, dit état d'urgence et conseil de défense.
Bonjour Louis Dragnel.
Bonjour.
Cet outil politique a complètement révolutionné la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron.
Oui, un conseil de défense sanitaire devenu un principe de gouvernance qui permet d'abord au maître des horloges de gagner du temps. Celui qui, dès son arrivée à l'Élysée, pestait déjà contre la lenteur des prises de décision au sommet de l'État à cause de la lourdeur de l'administration, peut désormais faire exécuter une décision en très peu de temps. Ça aurait été impensable de gérer la crise avec une gouvernance classique, explique un de ses proches, où quand on tirait une manette à Paris, ça ne répondait pas à l'autre bout de la France. Aujourd'hui, le président réunit chaque semaine le Premier ministre, une poignée de ministres et quelques scientifiques et tout est décidé rapidement en petit comité, sans être soumis aux discussions interminables avec une administration qu'Emmanuel Macron, en privé, considère en burn-out. Un mode de fonctionnement commando où les décisions qui concernent parfois des détails, comme le nombre de masques livrés dans une petite commune, sont prises de façon efficace avec effet immédiat. Tout ce qui plaît à celui qui a longtemps aimé se comparer à Jupiter.
Jupiter et son conseil de défense, Louis, cette pratique est aussi très critiquée dans la classe politique.
Effectivement, les oppositions qui avaient accordé les quasi pleins pouvoirs au chef de l'État en votant l'état d'urgence sanitaire lui reprochent depuis des mois une hyper-concentration des décisions, un Parlement méprisé et une absence totale de transparence de ces réunions dont on sait peu de choses. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est bien conscient qu'avec ses conseils de défense sanitaire inédits sous la Ve République, il a provoqué un glissement institutionnel. Et si aujourd'hui il a bien l'intention de dissoudre ses conseils une fois la crise terminée, il est désormais convaincu qu'on ne peut diriger la France efficacement qu'en déléguant le moins possible et au bout du compte, en prenant toutes les décisions lui-même.
Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1. On évoquait hier ces 2 millions de salariés toujours au chômage partiel. Ils étaient 8 millions au plus fort de la crise en avril. 27 milliards d'euros distribués ainsi très vite aux entreprises, parfois trop vite, la preuve avec ces escrocs ou patrons peu scrupuleux rattrapés par la patrouille.
Mais les sommes indûment versées n'ont pas encore toutes été récupérées, il resterait au moins une vingtaine de millions d'euros dans la nature, Guillaume Biais.
Oui, et cela représente une centaine d'enquêtes entre les mains de la police judiciaire, soit des entrepreneurs qui ont gonflé leurs effectifs en déclarant des salariés fantômes, soit des sociétés fictives ou en sommeil qui sont soudainement réactivées, ou carrément l'usurpation d'identité de chefs d'entreprise bien réels, mais dont les aides ont été détournées. Dans tous les cas, les escrocs se sont très vite adaptés à la crise, souligne la commissaire Anne-Sophie Coulbois. Elle est la chef de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière.
En fait, ce qu'on retient, c'est l'adaptabilité des criminels. Ils se sont tout de suite servis de ce nouveau système mis en place et de ses caractéristiques propres pour détecter les failles et s'insérer dans le système pour en bénéficier au maximum. Et aucune moralité, on profite au maximum pour un avantage très très personnel et très individuel.
Ouais, quitte à en faire les frais, les plus gros fraudeurs du système sont en prison en attendant leur procès avec saisie de leur compte bancaire, voire de leur voiture et de leur logement.
Guillaume Biais, chef du service police-justice d'Europe 1. À l'étranger, tandis que le Portugal entame un prudent déconfinement, réouverture des crèches, écoles primaires, salons de coiffure et librairies, le Brésil de Jair Bolsonaro commande 138 millions de doses de vaccins et change à nouveau de ministre de la Santé. Ce sera le quatrième en deux ans.
Vous restez avec nous. Dans un tout petit instant, on avait enterré une rivière. La Bièvre va de nouveau couler à l'air libre.
Et puis la musique francophone regagne du terrain face aux grands noms américains, parmi les albums les plus écoutés.
A tout de suite, il est 8h09.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal. François Geffrier.
On le sait, sous le pont Mirabeau coule la Seine. Mais qu'en est-il de la Bièvre? Cette rivière de 33 km coule sous la terre. Le cours d'eau qui va des Yvelines à Paris avait été entièrement recouvert au début du XXe siècle. Mais il y a ce projet, la Bièvre, comme d'autres rivières en France, autrefois enterrées, va revenir à la surface.
À commencer par ce tronçon de 600 mètres entre Arcueil et Gentilly, que Virginie Selmen est allée voir de plus près.
Certains habitants se souviennent d'avoir vu la Bièvre couler à cet endroit.
J'ai connu toute petite, alors je suis très contente de voir qu'elle va être découverte. Il y a tellement de bâtiments partout qu'un peu de verdure et un peu d'eau, ça fait du bien.
C'est justement ça la difficulté, faire ressortir de terre cette rivière. Les ingénieurs ont redessiné son lit à l'air libre, mais la Bièvre coulait par exemple sous un gymnase. Il a fallu construire des murs de soutien pour ne pas fragiliser le bâtiment avant de creuser pour trouver la canalisation dans laquelle elle coulait. Ce cours d'eau avait été abandonné au siècle dernier parce que trop pollué, notamment à cause des tanneurs qui rejetaient dans l'eau leurs produits chimiques.
Historiquement, la Bièvre a été fermée sur pétition publique. C'était un égout à ciel ouvert.
Benoît Kayser, chef de projet pour le département du Val-de-Marne.
Donc à l'époque, le progrès était de fermer la rivière. Maintenant, le progrès, c'est de réouvrir. C'est la vraie Bièvre qui va couler, sans apport polluant. C'est la reconquête du milieu naturel.
Des berges pour les promeneurs et des animaux qui ont déjà compris qu'un changement se préparait, selon Maya Abdelaziz, technicienne des espaces verts.
Là, on a des poules d'eau qui attendent le cours d'eau. On a même vu un canard mandarin se balader.
Et d'autres tronçons de la Bièvre devraient être découverts, notamment à Paris, dans les années qui viennent.
Virginie Salmen.
Qui a dit que la puissance culturelle des États-Unis allait tout emporter sur son passage? Les artistes français font de la résistance.
Ils font même mieux que ça, la preuve avec les chiffres que va révéler aujourd'hui le syndicat du disque, le SNEP, en le Châtelier.
Dans les 20 albums les plus vendus en 2020, il y a Vita et Slimane, Grand Corps Malade, Nekfeu. 19 en tout sont ceux d'artistes francophones. 7 de plus qu'il y a 10 ans. Alors les artistes français deviennent la priorité des labels, surtout les rappeurs, ce que souligne Bertrand Burgala, directeur du SNEP, le syndicat du disque.
Il n'y a pas eu l'américanisation qu'on aurait pu imaginer là-dessus, et la langue française, elle s'est très bien maintenue, en particulier grâce au rap ou aux musiques dites urbaines. Et c'est aussi le fait que les grosses boîtes en particulier, mais aussi les producteurs plus artisanaux, continuent d'investir énormément dans la production française. Ce qui est remarquable, c'est que le public, spontanément, va vers ces productions-là.
Et ça, c'est le résultat d'une politique de mise en avant de la production française qui a débuté à la fin des années 80, lorsque les radios privées ont été contraintes de diffuser 40% d'artistes francophones aux heures de grande écoute. Depuis 2016, un quart des titres qu'elles diffusent doivent être des nouveaux talents francophones. Les entreprises du secteur musical disposent même d'un crédit d'impôt pour accompagner les productions françaises qui représentent maintenant 70% des artistes que nous écoutons sur les plateformes de streaming.
Absorbé par un docu sur l'univers, l'insomnie est son fléau, les yeux sur un écran jusqu'à voir fluo. Je regarde par la fenêtre, la lune est verte, plongée au confluent des
étoiles. Ça c'est Nekfeu et c'est sa chanson Elle pleut, sortie de son dernier album Les étoiles vagabondes.
Les artistes français francophones qui font de la résistance. Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h14.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un instant, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité, le professeur Éric Combe, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1. L'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Ce matin, le professeur Éric Combe, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, auteur de Urgence sanitaire chez Robert Laffont.
Bienvenue à vous et bonjour professeur
Éric
Combe. La vaccination avec AstraZeneca est donc suspendue en attendant l'avis de l'Agence européenne du médicament dans les prochaines heures. Suspendre ce vaccin, professeur, est-ce que c'est une décision qui vous semble rationnelle ?
Oui, honnêtement, je pense que c'est une décision rationnelle, compte tenu de ce qui se passe en Europe. Je pense que ça aurait été intenable de pas suivre les autres pays européens.
Intenable, dites-vous, mais qu'est-ce qui guide vraiment cette décision de suspension ?
Ce qui guide cette décision de suspension, c'est la survenue d'effets indésirables, dont d'ailleurs on n'est même pas sûr qu'ils soient imputables au vaccin. Simplement, il faut juste vérifier si justement c'est imputable ou pas au vaccin. C'est-à-dire qu'il faut établir un lien de causalité ou éliminer ce lien de causalité. Ça demande un petit peu de temps. Donc c'est normal d'avoir demandé à l'Agence européenne du médicament de trancher.
Mais est-on dans le principe de précaution ou bien dans un précautionnisme à l'excès et même, j'allais dire, une recherche du zéro risque qui n'existe pas ?
Alors effectivement, vous avez raison de souligner que le risque zéro n'existe pas. Je crois que c'est quelque chose qu'on a trop tendance à oublier depuis le début de cette épidémie. On pense qu'on est immortel. Ben non, on n'est pas immortel. Ben non, le risque zéro n'existe pas. Et effectivement, on est dans ce cas de figure-là, du principe de précaution. Certains diront pousser à l'extrême, d'autres diront que c'est normal. Donc je pense qu'on n'est pas à 48 heures près, honnêtement. De toute façon, on est quand même en pénurie de vaccins. Donc je pense qu'il n'y a aucune raison de se précipiter, que 48 heures, on n'était pas à 48 heures près.
Mais quelles conséquences symboliques en termes de confiance ? On va en parler, professeur Éric Combe. Mais vous me dites, c'est intéressant, on n'est pas immortel. On dirait qu'on l'a cru, qu'on a presque fait sortir de nos sociétés en fait, l'idée de mort et qu'on qu'on agit par peur aujourd'hui ?
En fait, c'est intéressant d'en discuter parce que je pense que c'est le problème fondamental de cette épidémie. Après, c'est sûr que ce n'est pas forcément à un médecin de discuter de ça. C'est plutôt à un philosophe et à des philosophes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment, j'avais dit que ce n'était plus des médecins qu'il fallait interroger, mais des philosophes ou des spécialistes de l'éthique pour nous aider à réfléchir à cette question de la mort. Et effectivement, au fait qu'on n'est absolument pas immortel et c'était une notion qui était bien connue de nos anciens, mais qu'on semble avoir oubliée.
Donc les décisions sont prises et sont guidées par la peur, à vous entendre ?
Certaines décisions sont guidées par la peur, oui, évidemment, la peur de la mort, tout simplement, pour nous et pour les autres.
Mais le politique, quand il prend la décision, de quoi a-t-il peur ?
Le politique a peur des retombées de mort qui pourraient lui être attribuées. Hein. En fait, c'est ça le problème de fond, j'ai bien peur.
Mais vous le comprenez ? Ou alors est-ce qu'à l'excès, justement, on se protège, on se prémunit, on ne prend pas des décisions finalement courageuses et parfois une prise de risque qui peut s'avérer nécessaire ?
Oui, c'est vrai, mais là encore, c'est une question philosophique en fait. C'est pas une question à poser à un médecin, même si en tant que médecin, moi j'y réfléchis, mais c'est vraiment une question philosophique. D'ailleurs, il y a des philosophes qui en ont très très bien parlé de cette question.
J'ai noté tout à l'heure, professeur Ekom, en parlant d'AstraZeneca, que vous avez dit pénurie. Vous pensez qu'il y a une pénurie ?
Ah oui, je pense qu'il y a une pénurie
de vaccins. Pas juste un manque de doses, une pénurie.
Oui, il y a une pénurie de vaccins, c'est absolument évident, que ce soit le vaccin Pfizer, le vaccin Moderna, le vaccin AstraZeneca. On ne va pas parler du vaccin Johnson qui n'est pas encore arrivé, mais il y a une pénurie de vaccins. En même temps, on est très content d'avoir des vaccins à peine un an après le début de l'épidémie. Ça, c'est absolument extraordinaire sur le plan scientifique. C'est un miracle de la science, quelque part. Mais en même temps, les chaînes de production n'ont pas suivi et il y a un problème de pénurie vaccinale. Oui, on gère la pénurie.
Alors, on gère la pénurie. Et en plus, il y a cette suspension d'AstraZeneca. Mais si on devait, professeur Ericom, comparer avec les effets secondaires ou indésirables des autres vaccins, par exemple Pfizer ou Moderna, pas avec celui d'AstraZeneca, que diriez-vous ? Quelle comparaison ?
Alors, c'est vrai que c'est quand même il y a des effets indésirables qu'on peut pas le nier. Alors après, il y a
chez les autres aussi.
Oui, il y a des effets indésirables chez tous les vaccins. Après, c'est une question de fréquence. C'est des effets indésirables qui en général sont une fièvre, une fatigue, des maux de tête, des douleurs articulaires, musculaires, un syndrome pseudo-grippal, puisque la plupart des vaccins sont d'ailleurs des vaccins ciblés sur des virus, comme le vaccin de la grippe. Là, c'est peut-être un peu plus fréquent effectivement avec le AstraZeneca, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle hein, quand même. Parce que c'est une question de rapport bénéfice-risque, en fait.
Et elle reste très positive pour ce vaccin AstraZeneca,
à mon
selon
avis,
vous ?
Alors, on va bien voir ce que va dire l'agence du médicament, mais il me semble que le rapport bénéfice-risque est quand même largement en faveur du vaccin, même s'il y a quelques effets indésirables.
Mais alors, comment expliquer que ces complications éventuelles avec l'AstraZeneca, professeur Ericom, n'ont pas été détectées en Grande-Bretagne, qui ont massivement injecté ce vaccin ?
Alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est les systèmes de pharmacovigilance, hein, c'est-à-dire les systèmes qui permettent de surveiller les effets indésirables des médicaments. En France, on a un système qui est assez performant. Alors après, c'est pas nous hein, qui avons constaté ça, c'est pas les Français, hein, c'est les Autrichiens qui ont constaté ça en premier avec les Danois. Donc tout dépend de la force, de l'efficacité de votre système de pharmacovigilance. Mais là, une fois encore, faut préciser, on n'est pas du tout sûr que ça soit attribuable au vaccin.
Une question très concrète pour tous ceux qui ont déjà reçu une première dose de ce vaccin AstraZeneca en France, il y en a des milliers. Si la suspension se prolonge, comment faire pour tous ces primo-vaccinés ?
Effectivement, c'est une bonne question. Je pense qu'ils pourront... À mon avis, le vaccin va être
Vous n'avez pas beaucoup de doutes hein, là-dessus à vous entendre ce matin.
Non, j'ai pas beaucoup de doutes. Je pense que c'est juste une pause de 24-48 heures ou de 72 heures.
Enfin, mais une pause quand même pour étudier sérieusement...
Mais c'est logique. Hein. Enfin, moi, je trouve ça normal qu'on prenne les précautions nécessaires. Donc, soit ils sont revaccinés avec le vaccin Astra, ils auront une deuxième dose. Une fois que le feu vert aura été de nouveau allumé, mais soit ils seront vaccinés avec le vaccin Johnson, qui est basé sur le même principe.
Sauf qu'il y a une donnée fondamentale, et on n'en a pas parlé depuis le début, professeur Ericom, c'est la confiance qui peut être totalement entamée, même si ce vaccin AstraZeneca reprend et on reprend la vaccination. Est-ce que tout cela peut contrarier notre campagne de vaccination encore poussive en France ?
La confiance, c'est vrai que depuis le départ, en fait, il y a un problème de confiance. Hein. La confiance, elle a été cornée avec dès l'histoire des masques. En fait, la confiance a été
par la communication, alors, voilà, du gouvernement.
Mauvaise communication. Bon, je vais pas juger ça là, c'est pas mon métier, mais de mon point de vue, quand même, mauvaise communication. Ça a commencé avec les masques, puis avec les tests, puis avec l'isolement, puis avec les vaccins maintenant. Toutes choses qu'on sait pas bien faire et pas forcément de notre faute d'ailleurs, principalement du fait d'une pénurie et du coup on n'a pas su communiquer correctement.
C'est parce qu'on gère une pénurie qu'on ne sait pas communiquer.
C'est ce que j'ai envie de dire.
C'est ce que vous pensez, je suppose.
C'est ce que je pense pour certains éléments, pas pour tous. Hein. Pour les masques, par exemple, ou pour les vaccins, c'est ce que je pense, oui, effectivement.
Non, mais je n'ose pas poser la question parce que les doses AstraZeneca sont en retard de livraison. Oui. Nous ne sommes pas en train de gérer ces retards de livraison en suspendant ce vaccin.
Non, quand même pas.
Bien. Le vaccin russe Sputnik, professeur Ericom, est en attente d'homologation en Europe. Est-ce qu'il faut accélérer ? Est-ce que c'est un vaccin que l'on doit plus rapidement intégrer dans notre stratégie ?
Ben, je vous avoue, franchement, je ne le connais pas bien, donc je peux pas en parler.
Est-ce qu'il est plus il est classique, ce vaccin ?
Oui, c'est un vaccin classique. Il a l'air efficace, mais bon, je ne peux pas en dire plus. Je n'ai même pas vu de publication avec ce vaccin pour le moment.
La vaccination est primordiale, bien sûr, dans la course contre la montre face aux variants, mais qu'est-ce qu'on maîtrise vraiment à l'heure actuelle ?
C'est malheureusement une excellente question.
Et la réponse ?
La réponse est, en fait, on maîtrise... c'est le virus qui dicte sa loi, hein, et donc on ne maîtrise rien.
On ne maîtrise rien.
Non, je pense qu'on ne maîtrise pas grand-chose, parce qu'il y a des variants qui vont émerger. À partir du moment où on laisse circuler le virus, il y a des variants qui vont émerger. C'est absolument inéluctable. Si on ne veut pas de variants, eh ben, il ne faut pas laisser circuler le virus. Et dans ces cas-là, c'est l'option zéro Covid, comme certains pays du Sud-Est asiatique, ou l'Australie, ou la Nouvelle-Zélande. Et on sait ce qui leur en coûte. Et apparemment, il a été décidé que nous ne pouvions pas atteindre ce Graal, quelque part, qui est le zéro Covid, en tout cas en Europe, comme dans la plupart des pays occidentaux d'ailleurs. Je ne sais pas si tout le monde a remarqué ça.
Bien sûr. Une question autour de ce qui est présenté comme le variant, entre guillemets, breton. Les malades, professeur Ericom, ont les symptômes du Covid, mais leurs tests PCR sont négatifs. Comment l'expliquer ?
Ben oui, ça peut arriver parce que les tests PCR ne reconnaissent pas certains éléments du virus qui ont muté, en fait. Hein. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si on laisse circuler le virus, on laisse apparaître des variants. Et si on laisse apparaître des variants, eh bien, il y aura des réinfections, il y aura des variants...
Confinement, reconfinement, seule solution inéluctable, ce qu'on entend avec cette pression qui est mise depuis plusieurs jours ?
Ben, le confinement, en fait, je pense que c'est la pire des solutions, hein, clairement, hein, surtout d'un point de vue mental, d'un point de vue social, d'un point de vue économique. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Après, là, actuellement, on est confronté à une saturation des unités d'hospitalisation et surtout des unités de réanimation. Et donc ça
francilienne.
Oui, francilienne. Mm-hmm. Ah oui, je ne parle pas d'un bien confinement sûr. National, évidemment. Je pense que maintenant, on est passé à une régionalisation de l'approche de l'épidémie, qui est bienvenue. Hein. On en avait déjà parlé. Oui, je pense que c'est la saturation du système de santé, c'est la saturation des réanimations qui pose le problème. Parce que si par exemple vous ou un de vos proches est malade, bah demain on ne lui trouvera pas de place en réanimation parce que les réanimations seront pleines de Covid. Donc c'est ça le problème.
On parle très peu, trop peu, des traitements, des médicaments, professeur Ericom. Pourquoi selon vous ? Est-ce qu'on n'y croit pas suffisamment ? Est-ce que la France a suffisamment misé sur cette stratégie quand même qui est importante à côté des vaccins ?
Oui, je pense que c'est très important qu'il y ait des traitements curatifs, évidemment, mais malheureusement, il n'y en a pas. Enfin, en tout, il y a quelques approches.
Il y a des molécules prometteuses.
Oui, il y a quelques progrès qui sont faits. Il y a quelques molécules prometteuses.
Lesquelles, selon vous ?
Il y a une molécule qui va être testée, qui a déjà été testée, qui va être testée à beaucoup plus grande échelle bientôt. Donc, il y a des. Oui, il y a
laquelle, peut-être, professeur Ericom ? Je ne sais pas, l'interféron, c'est ce médicament alors, déjà utilisé contre l'hépatite C.
Il y a des médicaments. Là, je faisais plutôt allusion à un médicament antiviral spécifique du virus, mais effectivement, il y a l'interféron. Aussi qu'on peut prendre par voie inhalée et c'est relativement efficace. Les interférons sont des bons médicaments antiviraux, mais voyez, c'est des petits progrès, c'est pas des gros progrès. Pour l'instant, on n'a rien trouvé de mieux que les corticoïdes pour les malades qui sont dans des formes graves de Covid.
Pourquoi êtes-vous plus rare dans les médias en ce moment, professeur Rico, mais avec peut-être une parole plus mesurée, plus nuancée en ce moment. Pourquoi cette raréfaction de votre parole ? Déjà, merci d'être là ce matin.
Ben, c'est un peu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on nous a trop entendus, les médecins, y compris moi-même d'ailleurs, dont je me suis appliqué cette règle.
Trop entendus, vraiment ?
Oui, je pense
qu'on
a trop entendu.
Parce qu'il y a des contradictions entre vous tous, des tests contradictoires.
Oui, je pense que c'est une véritable cacophonie. Notre image s'en trouve altérée. Et comme je vous l'ai dit, je pensais qu'il était plus important maintenant d'entendre des philosophes ou des spécialistes de l'éthique que des spécialistes de médecine ou des mathématiciens qui font des modèles. Bien évidemment, tout le monde est à écouter, mais il y a peut-être des nuances à approcher. Et je pense que la réponse à cette épidémie, en fait, elle est plus philosophique aujourd'hui.
En tous les cas, les nuances, on les a entendues ce matin. Merci pour votre venue ce matin, professeur Eric Combe. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci à vous.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'info, la météo, c'est à suivre sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, nouveau point sur l'info avec Marion Gallet.
Une décision jeudi, mais une première réunion aujourd'hui à l'Agence européenne des médicaments, réunion aussi à l'Organisation mondiale de la santé. Au cœur des discussions, le vaccin AstraZeneca et ses effets secondaires présumés, caillots, troubles du rythme cardiaque. En attendant de l'avis de ces institutions, 7 pays européens, dont la France, ont suspendu l'utilisation des doses du laboratoire suédo-britannique. Suspension qualifiée de rationnelle à l'instant sur Europe 1. Par Eric Combe. Pour le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, il aurait été intenable de ne pas suivre les autres pays européens. La crise sanitaire traversée dans la douleur depuis un an désormais par les étudiants, privés de vie sociale avec des cours en grande partie à distance. Des étudiants qui manifestent aujourd'hui, notamment à Paris. Ils demandent au gouvernement d'aller au-delà des mesures déjà annoncées. Quel accompagnement justement aujourd'hui pour ces jeunes ? Revue de détail avec Carole Ferry pour Europe 1.
Le plus gros succès, ce sont les repas à 1 euro, 100 000 repas servis chaque jour, les deux tiers à des étudiants non boursiers. Ils sont 8 fois plus nombreux qu'auparavant à venir manger au Resto U. Concernant les aides financières, tous les étudiants boursiers et non boursiers peuvent recevoir une aide d'urgence pouvant aller jusqu'à 500 euros pour payer leur loyer ou faire des courses de première nécessité. Ces aides ont augmenté de 50% depuis le début de la crise et sont débloquées beaucoup plus rapidement selon la présidente des CROUS de France, Dominique Marchand.
Il y a une simplification, une dématérialisation, des e-cartes par exemple qui permettent d'aller s'approvisionner dans de la grande distribution, qui peuvent être débloquées dans la journée. Et puis pour les aides en monétaire, elles peuvent être accordées sans l'avis de la commission, donc versé très rapidement aux étudiants.
Par ailleurs, sur les 21 000 emplois étudiants promis, 10 000 ont été créés pour le moment. Des postes de tuteurs et de référents Covid dans les résidences étudiantes. Enfin, la plateforme Santé Psy étudiant qui permet des consultations gratuites est maintenant en place depuis une semaine.
Une précision signée Carole Ferry pour Europe 1. Pour les plus jeunes, le gouvernement annonce ce matin son intention d'élargir la distribution de petits déjeuners gratuits dans les écoles, jusque-là réservés aux établissements situés en territoire prioritaire. Et puis le vote cette nuit à l'Assemblée d'un texte renforçant la protection des mineurs face aux violences sexuelles. L'âge de non-consentement y est porté à 15 ans, 18 ans en cas d'inceste.
Merci beaucoup Marion Calais. 8h33 sur Europe 1. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Les nuages sont légion sur la France. Il y a la France vraiment sous une couche nuageuse assez intense avec des pluies. Alors j'ai cessé de distinguer le matin de l'après-midi parce que j'ai l'impression que la zone perturbée, la zone de pluie arrive très vite. Alors le Nord, la Picardie, Champagne-Ardenne, la région parisienne, le Berry, le Morvan sont des régions qui seront touchées assez rapidement. La Normandie, les Pays de la Loire, le Poitou-Charente, le Massif central et la Lorraine également. Parfois c'est déjà le cas, hein, dans le Nord il pleut, sur la région parisienne, il pleut plutôt sur l'est que sur l'ouest. Mais enfin bon, toutes ces régions seront sous la pluie. Des giboulées, alors c'est une autre forme de pluie, hein, mais plus violente. Sur l'Alsace, le Mâconnais, la Franche-Comté, les Alpes du Nord, les Cévennes. Autour de Lyon, il ne devrait pas y avoir de giboulées, pas beaucoup. Dans le sud-ouest, des éclaircies, donc Aquitaine, Midi-Pyrénées, Pays Basque et le bassin méditerranéen, soleil et vent. Pardon d'aller vite, mais on me presse. 10 à 14 degrés, température maximale. Voilà.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Tout va bien, il est 8h34.
On est doux.
Vous êtes sur Europe 1 et tiens, le docteur Jimmy Mohamed nous a rejoint.
Oui, et ce matin on va parler du trouble du rythme cardiaque le plus fréquent au monde et qui peut être déclenché par la simple prise d'alcool.
Notre santé, juste avant notre planète avec Fanny Agostini et Nicolas Conteloup pour la revue de presse. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h36 sur Europe. Bonjour docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le médecin d'Europe 1. Vous allez nous parler ce matin d'une arythmie cardiaque peu connue du grand public, mais qui est pourtant extrêmement fréquente, la fibrillation auriculaire.
Exactement, on appelle ça la fibrillation auriculaire. C'est le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent au monde. Alors, derrière ce nom barbare se cache quelque chose d'extrêmement simple. En temps normal, eh bien vous avez votre cœur qui bat de façon régulière, tel un métronome. Dans cette fibrillation, il va se passer une forme de tempête électrique qui va aboutir à des contractions anarchiques du cœur et vous, vous allez avoir ce qu'on appelle des palpitations. Votre cœur va battre de façon irrégulière. C'est ce qu'on appelle la fibrillation, ça bouge dans tous les sens, et auriculaire, c'est les petites oreilles du cœur. Alors, il faut bien comprendre que quand vous allez avoir ça, ce cœur qui va battre de façon irrégulière, le sang va stagner dans le cœur. Lorsque le sang stagne, il va le former des petits caillots. Ces caillots, lorsque la circulation va reprendre, vont être expulsés, notamment dans la circulation classique, et va donner ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral, puisque ça va venir boucher les artères du cerveau. Et rendez-vous compte, quand vous avez une fibrillation auriculaire, vous multipliez par 5 le risque de faire un accident vasculaire cérébral.
Alors, comment est-ce qu'on attrape cette fibrillation ?
Alors, il existe certains facteurs de risque qui sont bien connus. Le premier, c'est l'âge. Plus on vieillit, plus les circuits électriques du cœur vont s'abîmer et plus vous êtes à risque. Il y a aussi l'hypertension artérielle, certaines pathologies cardiaques, mais aussi l'hyperthyroïdie. Le fait d'avoir une thyroïde qui marche trop vite, eh bien, elle va énerver le cœur. Mais il y a aussi d'autres facteurs, notamment dans l'environnement, avec notamment la consommation d'alcool.
L'alcool, boire excite tout simplement le cœur ?
Exactement. Alors, on sait qu'il y a d'autres facteurs de risque. Lorsque vous avez de l'hypertension, vous pouvez en faire. Vous savez que la fibrillation peut, elle aussi, déclencher de l'insuffisance cardiaque. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une relation dose dépendante entre la consommation d'alcool et la fibrillation auriculaire. En d'autres termes, plus vous buvez, plus vous avez un risque de faire cette fibrillation. Et à l'inverse, chez les gens qui ont déjà une fibrillation auriculaire, s'ils consomment simplement 2 verres d'alcool par jour et qu'ils ont de la fibrillation auriculaire, eh bien ils ont 30% de risque en plus de faire un accident vasculaire cérébral ou une complication de cette fibrillation. Et à l'inverse, si vous réduisez votre consommation d'alcool, eh bien vous réduisez votre risque de fibrillation. D'une façon générale, n'oubliez pas que l'alcool est très calorique. Et donc, à la fois pour votre cœur et pour votre ligne, l'alcool, c'est à consommer avec modération.
Mais pourquoi il finit toujours par la ligne, Jimmy ?
J'aime bien, ça parle à tout le monde.
Et pourtant, quand on a nos horaires, vous savez, on est modéré là-dessus. Tiens, du cœur, il sera question, d'une certaine manière, entre 15h et 16h.
Exactement. Dans une société où montrer ses sentiments est perçu comme un signe de faiblesse, eh bien, on va accueillir Saverio Tomasella. Il est docteur en psychologie et il va nous aider à mieux vivre nos sentiments.
Mieux vivre les émotions au jour le jour, c'est dans son rendez-vous l'émission Santé d'Europe 1 de 15h à 16h avec Mélanie Gomez et Jimmy Mohamed. 8h39, notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et ce matin, vous nous parlez d'une lessive qui va nous permettre d'économiser de l'énergie.
Oui, oui. Alors vous connaissez déjà, j'imagine, les lessives écologiques qui ont envahi les rayons et qui ont la vertu de ne pas polluer l'eau. Mais la lessive qui permet d'économiser l'énergie, ça vient de sortir. Une lessive innovante qui permet, quel que soit l'état de votre linge, de le laver à froid. Alors c'est difficile à croire, car on en a tous fait l'expérience. Hein, quand on lave ses affaires de sport, par exemple, ou sa chemise bien auréolée en dessous de 40 degrés, on ressort généralement ses vêtements avec encore une vague odeur de transpiration. Puis on a à tous les coups encore des taches sur nos vêtements. Et bien avec cette lessive innovante dont le secret vient de la mer, c'est terminé, on peut laver nos vêtements à froid.
Moi, mes affaires de sport vont très bien. Faut dire qu'elles restent dans le placard l'essentiel de l'année. Bon, vous nous dites que la solution vient d'être trouvée à travers une algue trouvée dans la mer du Nord.
Oui, alors je ne vous dis pas que nous allons désormais laver notre linge en jetant des algues dans le tambour. La nouvelle recette de lessive incorpore non pas l'algue entière, mais ses enzymes. Des enzymes d'algues, donc suffisamment efficaces pour nous permettre de nous passer des lavages au-dessus des 30 degrés. Et là où je fais le lien avec ces algues et l'énergie que l'on économise, c'est que baisser la température de lavage de 40 à 30 degrés permet d'économiser un tiers des émissions liées au chauffage de l'eau. Et le chauffage de cette eau représente lui-même 60% de l'empreinte carbone quand on fait notre lessive. Alors c'est vrai que comme ça le geste peut paraître anodin, mais dites-vous que généraliser cette pratique en France permettrait d'économiser l'équivalent de la consommation électrique de la ville de Nantes, et si on change d'échelle, la généraliser à l'Europe tout entière serait l'équivalent d'un retrait de 2 millions de voitures de la circulation.
C'est vraiment vrai qu'on parle toujours des voitures et jamais des lave-vaisselles. On peut peut-être espérer le même type de détergent pour les lave-linges, je disais, mais on peut l'espérer pour les lave-vaisselles du coup, que c'est un autre gros consommateur d'électricité. visiter, Fanny.
Et oui, et Mathieu, figurez-vous qu'on n'en est pas loin. Les gros acteurs du marché de l'électroménager se sentent en ce moment menacés parce que le nombre et la taille des startups proposant des alternatives écologiques ne cessent d'augmenter. Elles n'occupent pour le moment qu'à peu près 8% du marché, mais grandissent rapidement chaque année. Et du fait de cette concurrence accrue, on assiste à la surenchère des alternatives, des détergents polluants, énergivores, voraces en matériaux à usage unique et incorporant des suremballages. Des produits qui n'ont définitivement plus leur place dans le monde bas carbone, zéro déchet et soucieux de la santé humaine et des écosystèmes.
Merci Fanny Agostini, notre planète, c'est tous les matins sur Europe 1. Merci Fanny, à demain. Il est 8h42. Dans quelques toutes petites secondes, Nicolas Canteloup et Julie qui s'installent.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite Mathieu Béliard pour les infos du jour.
Bonjour Julie, bienvenue sur Europe 1. Europe 1 regarde le monde changer et la vaccination s'arrêter. Car, l'info du jour c'est la vaccination, vous savez, qui est suspendue en France avec AstraZeneca. On voulait accélérer et finalement on est obligé de freiner. Résultat, on n'avance pas et on cale. Vous l'avez compris, c'est plus une stratégie vaccinale, c'est une première leçon d'auto-école. Cette nouvelle, en tout cas, on en est tous d'accord, va remettre en cause toute notre stratégie vaccinale. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'avait pas vraiment de stratégie vaccinale. Alors, que s'est-il passé avec AstraZeneca? Aurait-on oublié de... Je ne sais pas, le vaccin ne marche pas. Le vaccin peut-être est malade. Aurait-on oublié de vacciner le vaccin lui-même? Beaucoup de questions. Et vous l'avez compris, ce matin, peu de réponses. L'autre info, allez. C'est la situation sanitaire qui se dégrade encore en Île-de-France. Donc avis aux Parisiens, si vous voulez vous barrer, contaminer d'autres régions qui n'ont rien demandé, c'est le moment. Après, ce sera trop tard. Allez, bonnes vacances les Parisiens. Nous, on va rester un petit peu avec Julie. Hein. Et puis Laurent, et puis les autres. Allez,
merci Mathieu, à demain. Emmanuel Macron a donc décidé de suspendre provisoirement le vaccin AstraZeneca, soupçonné de causer des thromboses. Bonjour Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux soignants, aux soignantes, aux covideux, aux covideuses. Effectivement, j'ai suspendu l'utilisation de ce vaccin. Ça fait chier parce qu'on n'avait vraiment pas besoin que les labos étrangers viennent faire foirer notre campagne de vaccination. Jean Castex est arrivé très bien tout seul.
Vous êtes dur, hein. Ça allait mieux quand même.
Oui, c'est ça. Oui, bien sûr, ça allait mieux. Ouais. Trois mois que c'est lancé, 7% de vaccinés, alors que les Anglais sont quasiment à 40%. Mais tout va bien. Tout va bien, mais je vois que vous positivez. J'espère qu'ils vont en choper plein des thromboses, les Anglais. Hein. Ouais. Mais bon. Quand l'Allemagne a décidé de suspendre, c'est vrai que là, pour moi, ça devenait difficile de pas faire autrement, de pas suspendre le vaccin. Mais ça me rend dingue, parce que retarder la vaccination, parce qu'une poignée de bavaroises ont des varices sous les poils, ça me rend fou.
Allez, autre chose, vite. Vous avez dit que vous vous apprêtiez à prendre de nouvelles décisions. Alors, c'est une manière d'annoncer un reconfinement de l'Île-de-France, c'est ça?
Écoutez, maintenant, si tout peut arriver. Hein. Si en plus des malades du Covid, on doit accueillir des gens qui ont des thromboses, c'est sûr que le système hospitalier va exploser. En tout cas, moi... J'espère que vous n'aimez pas manger au restaurant, ceux qui vous nous écoutez là. Parce que vous n'êtes pas prêts d'en revoir un ou deux, ça c'est sûr.
Bon, d'accord, merci à vous.
J'en prie.
Emmanuel Macron qui a donc décidé de suspendre le vaccin AstraZeneca. On va analyser le sens de cette décision avec Jean-Michel Apathy.
Non, c'est pas un moustique, c'est moi. Bonjour ma chère Julie, bonjour à mon collègue rouleur de R, Mathieu Béliard, et bien. Emmanuel Macron, le président Macron, était au pied du mur, il faut bien le dire. Toute l'Europe était en train de suspendre ce vaccin parce qu'on a détecté, on le rappelle, 15 gapans de plus, 15 cas de thrombose sur quoi? Sur 17 millions de personnes vaccinées. On rappelle que le lien en plus n'est même pas avéré. Mais ce n'est pas tout. L'Europe réfléchit aussi à suspendre le Doliprane. Car on a détecté 9 cas de sclérose en plaques sur 50 millions d'utilisateurs chez les gens qui en prenaient. Et 19 cas de cancer du rectum chez les gens qui se lavent les cheveux avec un shampoing type paniculaire dont je suis.
Bon, vous vous moquez, Jean-Michel, hein, ça s'entend. Mais écoutez, le président applique le principe de précaution, ça se comprend.
Oui, d'accord, ma Julie, mais dans le même temps, le virus fait des ravages, Emmanuel Macron ne veut pas reconfiner l'Île-de-France. Et là-dessus, on a des certitudes. Franchement, on ne comprend rien.
voilà. Merci Jean-Michel Apathy. Oui, c'est bon, ça ira. Allez, on va revenir sur ce double cambriolage dont ont été victimes deux joueurs parisiens, Di Maria et Marquinhos. On en parle avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Bonjour, madame Hidalgo.
Oui, bonjour, c'est Anne Hidalgo.
Oui, oui.
Mais je vais rester habillée.
Quoi ?
Je ne mettrai pas en peau d'âne comme Corinne Mazero.
Oh là là.
Oui. C'est un petit clin d'œil hilarant au César.
Hilarant, oui.
Non, comme je m'appelle Anne.
Oui, oui, d'accord. Oui.
Voilà. Voilà. J'avais aussi Macron, tu n'auras pas la peau d'âne.
Oh là là.
Oui, parce que je m'appelle toujours Anne.
Oui, non, mais on avait compris. Oui, on
ça
l'avait.
Marche
ça
marche à tous
oui,
les
oui.
coups.
Non, non, on l'avait, on l'avait.
Il y a une forme de. Voilà, c'est la bonne son.
Parlez-nous plutôt de ce double cambriolage dans la ville dont vous êtes la maire, Paris.
Oui, c'est bien de repréciser cette information. Oui, c'est effectivement une double bonne nouvelle, car cela signifie que tous les Parisiens ne sont pas partis de Paris. Et surtout que la vie reprend à Paris.
Comme
c'est
vous
important
dites,
de dire que la vie reprend à Paris. Le cambriolage, en effet, est une des spécificités parisiennes. Vous savez, cambrioleur, c'est une profession qui a énormément souffert à cause du Covid. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit qu'ils retravaillent, les cambrioleurs. L'activité reprend. C'est formidable. C'est positif.
C'est ça.
Ça va dans le sens de
oui,
bon sens.
Parfait, parfait, Anne Hidalgo. C'est bon pour aujourd'hui.
Oui, des fois, des mots me manquent.
Oui, non, mais c'est pas grave. Revenez
parfois,
quand vous voulez.
Oui.
Revenez terminer vos phrases un de ces jours, quand vous voudrez.
D'accord.
Allez.
Non, parce que parfois, mon
oui,
cerveau va plus
vous
vite que ma langue.
On va parler de ça avec Kylian Mbappé. Bonjour. Un mot sur ces cambriolages, Kylian.
Oui, bonjour, madame. Et effectivement, d'ailleurs, que des cambrioleurs ne profitent pas de votre absence, faites attention, hein, qu'ils ne profitent pas de votre absence à l'antenne pour vous cambrioler.
Donnez-leur des idées, oui, allez.
Hein, oui, oui, non, non, votre
quoi
présence à l'antenne, bien sûr.
Ben...
Oui, non, je suis bête. Vous ne bossez que 10 minutes par jour, donc ils n'ont pas le temps de cambrioler chez vous.
Ça va, hein. Bon, c'est gentil de penser à moi, en tout cas.
Okay.
Alors, les joueurs touchés sont Di Maria et Marquinhos, hein, c'est bien ça?
Voilà, tout à fait, c'est ça. Rassurez-vous, Neymar n'a pas été cambriolé. Pour la bonne raison qu'il n'est jamais sur le terrain. Ça fait 6 mois qu'il est sur son canapé à son domicile. On ne risque pas de le cambrioler en son absence.
Toujours est-il que les joueurs du PSG l'ont appris pendant le match et que vous avez été perturbé. Du coup, vous avez perdu contre le 19e du championnat, le FC Nantes. Vous rendez
oui,
compte.
Alors là, attention, il faut quoi respecter la victoire de Nantes. Les pauvres, eux aussi, ont été victimes d'un vol.
Hein ? Ah bon ?
Bah oui. Raymond Domenech, il est arrivé, il a pris un max de pognon, il s'est barré au bout d'un mois. Sans armes, ni haine, ni violence. Non, il est vraiment très fort.
Très très fort, oui, comme vous dites. Allez, un mot de l'affaire Big Malion maintenant qui ressurgit. Big Malion, vous savez, c'est cette entreprise d'événementiel accusée d'avoir fait de fausses factures au bénéfice de Nicolas Sarkozy pour lui permettre de dépasser ses frais de campagne présidentielle en 2012.
Mais quelle indignité.
Ah, il y avait longtemps.
Quelle indignité, Mme Pyjamas. Déjà, la semaine dernière, Monsieur Cabrol, on m'a condamné parce que j'étais innocent. Et là, les juges cherchent à démontrer que je suis innocent une deuxième fois. Tout ça pour me condamner. Mais c'est un acharnement. Je le dis, on s'acharnemente sur moi.
C'est Jérôme Lavrieux, votre ancien directeur adjoint de campagne, qui avait révélé l'affaire. Mais le procès devait être renvoyé car son avocat est malade. Il a le Covid.
Ah bon, il est malade et on reporte le procès.
Ouais.
Attendez, juste un instant, vous permettez, ma Julie ?
Quoi ?
J'ai juste un petit coup de fil à passer.
Allez-y, allez-y.
Maison de retraite et Pétunia de Maison Alfort, bonjour, Christian, à votre écoute, je vous écoute, ne quittez pas, je suis patiente en musique.
Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer.
Merci la patiente, que puis-je faire pour vous? Qui est à l'écoute, j'écoute.
Oui. Bonjour madame, c'est madame Christiane, c'est Nicolas Sarkozy. Dites-moi, est-ce qu'il vous reste des patients malades en stock? Parce que j'aimerais venir les voir, les prendre dans mes bras, les chouchouter, les embrasser, pour les consoler, vous comprenez ça madame Christiane?
Oh non, Monsieur, vous êtes pas monsieur le vrai monsieur Sarkozy? Non, oh, je vous adore. Oh là là, quand vous venez à la télé avec votre petit air sévère là, que vous dites quelle indignité, oh j'adore ça. Oh, quand vous montez sur vos grands poneys là, oh là là, bon, vous me faites frissonner. Oh,
ah,
en tout cas, monsieur Sarkozy, pour répondre à votre question. Désolé, non, non, on n'en a plus. Ils ont tous été vaccinés, nos anciens.
Comment ça, vous en avez plus? Mais Mme Christiane, allons pour moi vérifier. Il vous en reste peut-être bien un petit malade ou deux dans la réserve. C'est pour offrir à un juge.
Non, 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 je suis désolé. Même dans les plus vieux modèles, c'est plus disponible. On n'en a plus.
Oui, bon, bah, écoutez, merci, madame. Désolé de vous en déranger. Hein. Mme Julie, vous m'entendez? Oui, il va falloir que je trouve un autre truc et vite,
ah
hein,
oui,
je crois.
Ça, je vous le confirme. Merci, à bientôt, M. Sarkozy. BFM TV recevra ce soir Jean Castex et on va en parler avec son directeur, Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Marco.
Ouais, salut Julie, salut Mathieu, salut à tous. Ouais, mais ce soir, on a Jean Castex, carrément, le Premier ministre, sur un plateau super moderne, je te le rappelle. 25 caméras, 6 intervenants, des modules interactifs avec nos téléspectateurs, des bandeaux de partout, ça clignote de partout. Ça va être énorme. On va parler du reconfinement, de la suspension du AstraZeneca, faut que j'appelle Samuel Etienne.
Oui, bonjour, ici Samuel Etienne. Je suis heureux de vous répondre avec, bien sûr, bienveillance et avec humilité, avec un cafan, un croissant, un coiffé, un crafé et un croissant. On va reprendre les interviews politiques très vite, bien sûr.
Hé, hey, l'Amérique horaire. Hey, t'as bien les boules, Samuel. Tu reçois Castex dans ta cuisine qui te dit que le vaccin est sans danger. Et là, badaboum, fracassé, bravo le scoop. Et devine qui c'est qui reçoit Jean Castex ce soir. Ben, nous, on va faire du vrai boulot de journaliste, ok? Tu comprends ce que je veux dire? Avec des vraies news. On va pas être emmerdé par le bruit du micro-ondes et les voisins qui baisent. Et puis nous, je te rappelle qu'on fait 350 000 téléspectateurs, pas 80 000. Oh, le loser.
Marco, je te le dis avec toute la bienveillance, c'est bien sûr un café, et en toute humilité, car ici on joue au réel de la modestie, au FC, je me la pète pas trop. Avec les audiences cumulées ce matin, on est autour de, je crois, 600 000 spectateurs.
Oh, putain, mais il est insupportable, monsieur Question pour un champion, avec son Mintel pourri, là. Mais retour faire gagner des dictionnaires à des vieux, laisse-nous faire notre métier, merde. Ah, j'en peux plus, Julie. Hein. On passe au modèle économique.
Il est colère. Merci beaucoup, Nicolas Canteloup et Julie, et bravo à Philippe Cabrivia, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, les auteurs de la revue de presque 8h57. Philippe Vandel nous a rejoint, Culture Média, la matinée continue sur Europe 1. Bonjour Philippe.
Mais oui, bonjour Mathieu, notre infomédia va s'intéresser au nouveau projet de France Télévisions, ça s'appelle Démocratie. Il se veut ce projet innovant pour les rendez-vous d'info du groupe. On sera avec Laurent Guimier, le directeur, le tout nouveau directeur de l'information de France Télé. Il va également nous parler des nouveaux outils de lutte contre les fausses infos et puis les nouvelles nominations au service politique qui font beaucoup parler. Au sommaire également, la comédienne Aïssa Maïga, elle explore la représentation des femmes noires au cinéma avec Regard Noir, film documentaire édifiant, c'est sur Canal+. Et puis la peinture l'a sauvée, mais réellement à un moment donné, il voulait se mettre sur une voie ferrée pour se faire couper les bras. C'est l'artiste Gérard Garousse, l'un des peintres français les plus connus. Il vient dans l'émission parler de Vraiment peindre, un livre d'entretien avec des tourments, de la folie, de l'incompréhension.
Culture Média de 9h à 11h avec Philippe Vandel et toute son équipe. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute d'Europe 1, bien sûr. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.